Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans le chapitre 12 de Saint-Luc, en train d'expliquer les versets 35 à 44. Surtout le verset 35, que vos reins soient sains, C-E-I-N-T-S, et les lampes allumées dans vos mains. Donc j'ai commencé à expliquer ce que disent les pères sur le sujet. Donc les reins sains symbolisent la chasteté, et les lampes allumées symbolisent les bonnes œuvres. Et donc les pères expliquent qu'il faut les deux choses, la chasteté seule ne suffit pas, ou les œuvres seules ne suffit pas, il faut les deux choses. Tout simplement, ça veut dire que si je n'ai pas l'état de grâce, et bien toutes les actions que je fais pour Dieu ne valent rien, parce qu'il manque l'essentiel. Il faut être uni à notre Seigneur Jésus-Christ par un cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, c'est la vertu de charité. La vertu de charité, c'est l'état de grâce, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc, nous en sommes à la page 18 sur le polycopier, donc qui contient les chapitres 11 à 15. De Saint-Luc, nous en sommes à la page 18, en haut de la page, sur le polycopier. Donc, je vous rappelle les versets que nous expliquons, que vos reins soient sains, les lampes allumées dans vos mains, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que lorsqu'il arrivera et frappera, ils lui ouvrent aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, il les fera asseoir à table et passant devant eux, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, s'il vient à la troisième veille et qu'il les trouve en cet état, heureux sont ses serviteurs. Or sachez que si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement et ne laisserait pas percer sa maison. Mais vous soyez prêts, car à l'heure vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Notre Seigneur Jésus-Christ donc viendra nous chercher à son heure, pas la nôtre. Il sait mieux que nous exactement quand est-ce qu'il va venir, mais nous, nous ne savons pas. Et donc, il faut être prêt. Et la meilleure façon d'être prêt à l'arrivée impromptue de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est justement d'être en état de grâce constamment. Alors voilà, nous en sommes en haut de la page 18. Je vous répète cette phrase de saint Augustin, j'avais terminé avec cette phrase la dernière fois. Le Christ nous demande de ceindre nos reins pour nous garder de l'amour des choses de ce monde et d'avoir nos lampes allumées pour que ceci soit fait avec une bonne fin et une intention droite. Les reins sains, par une ceinture, rendent le corps incapable de s'endormir. Celui qui est saint avec la chasteté illuminée par une pure conscience continuera bien éveillé. Donc, deux choses, en haut de la page 18. Premier précepte du Christ était d'avoir nos reins sains. Le deuxième, d'avoir nos lampes allumées. Et le troisième, d'attendre le retour de notre maître. Donc, pour se préparer à l'arrivée du maître, qui va venir pendant la nuit à une heure que nous ne savons pas, à une heure que nous ne connaissons pas, soyez prêts, dit notre Seigneur, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Donc, il faut se préparer avec la chasteté, reins sains, et les bonnes œuvres, les lampes allumées, et attendre. Pourquoi ? Parce que nous sommes des étrangers en voyage vers le royaume céleste. Donc comme nous sommes en voyage, eh bien, nous ne savons pas quand le voyage va s'arrêter. Nous devons donc dépasser en vertu tous les autres et nous devons fixer nos espérances dans les cieux. La fin, dit saint Thomas d'Aquin, est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin de notre vie, c'est le salut de notre âme, la rentrée au paradis, même si dans la pratique, cette fin ne va arriver qu'au bout de notre vie. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet. Saint Paul exhorta Félix, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 24, sur ces trois points que je viens d'expliquer. Nous sommes des étrangers, nous devons dépasser en vertu tous les autres et nous devons fixer nos espérances dans les cieux. Donc, Saint Paul exhorta Félix sur ces trois points. Il parla de la continence, donc ça, c'est les reins saints, de la justice et de la vie éternelle. La justice, c'est les bonnes œuvres, donc les lampes allumées, et la vie éternelle, parce qu'il faut attendre le retour de notre Maître. En ces trois choses est contenue la somme de toute la vie évangélique. Donc il expliqua les trois devoirs de la vie évangélique. D'abord, les reins saints. Je dis, ça représente la chasteté. Donc cette phrase montre que les apôtres furent envoyés par le Christ pour prêcher l'évangile par le monde entier, en luttant contre les mauvais esprits, les chefs tyranniques, les incroyants et les vices, comme le dit saint Luc. Les reins saints, si vous voulez, c'est la façon de s'habiller du soldat, du combattant. Le combattant a les reins saints, bon, pour ne pas être embarrassé par ses vêtements, des vêtements flottants. Donc il va ceindre ses reins pour être fort dans le combat. Et bien, ces reins saints représentent la vertu de chasteté. La vertu de chasteté, c'est la vertu du combattant. Chasteté vient du mot castra. En latin, castra, castrorum, c'est le camp militaire. Donc la vertu de chasteté, c'est la vertu du soldat qui se bat pour l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est traduit par la phrase de saint Luc, « Je vous donne autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de vos ennemis. Hein? » Donc, si nous avons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, nous aurons cette force. Et cette force est représentée par le fait que nous avons cette ceinture sur les reins. On voit ça aussi chez certains saints. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, après avoir mis dehors une femme de mauvaise vie que ses parents, sa famille avaient introduit dans sa cellule, à la maison où il était maintenu prisonnier parce qu'il voulait rentrer chez les dominicains. Donc les parents avaient eu l'outrecuidance d'introduire une prostituée dans sa cellule pour le faire pécher, le faire abandonner sa vocation. Et saint Thomas a pris un tison avec une pincette qui était dans le foyer, qui chauffait la pièce. Il a pris un tison allumé et a fait fuir la fille de mauvaise vie avec ce tison. À la suite de ça, Dieu lui a envoyé un ange qui a ceint les reins de saint Thomas d'Aquin, cette ceinture de chasteté, et à la suite de cela, saint Thomas d'Aquin a été préservé de toute tentation d'impureté pendant toute sa vie, pour avoir toute l'opportunité de travailler et d'étudier et d'écrire. Bon. Et il a pu passer sa vie à écrire parce qu'il n'avait pas lutté contre les tentations d'impureté, il n'en avait plus. Donc les reins saints représentent le combat spirituel, le combat contre les mauvais esprits, les démons, les chefs tyranniques, les incroyants et les vices. Deuxième chose, la lampe allumée. Donc je vous l'ai dit, ça représente les bonnes œuvres. Ici, les pères de l'Église disent que les apôtres ont illuminé le monde par leur doctrine et leur prédication. Selon ces paroles, vous êtes la lumière du monde. Donc cette lumière du monde, c'est la lumière qui va aller enflammer le monde de la vertu de charité. La charité des apôtres va partir à travers le monde et enflammer le monde comme une étincelle met le feu au roseau sec. Donc le monde entier va être enflammé de cette lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière qui éclaire la nuit. La nuit, c'est la nuit du péché, c'est la nuit de l'ignorance, c'est la nuit des mauvais esprits, c'est la nuit des chefs tyranniques, c'est la nuit des incroyants, c'est la nuit des vices. Eh bien, tout ça va être détruit par la lampe de la charité. Donc la lampe allumée représente la vertu de charité, c'est-à-dire la pratique de la loi de Dieu. La charité, c'est ça. Charité consiste, je vous l'ai souvent expliqué, la charité consiste à remplir la loi du bon Dieu, remplir les 10 commandements. Celui qui ne remplit pas les 10 commandements ne vit pas dans la charité, puisqu'il manque l'essentiel. Troisième point, donc premier point, les reins saints. Deuxième point, la lampe allumée. Troisième point, il nous faut attendre le maître qui doit rentrer. Dieu va venir, et l'évangile nous prévient qu'il va venir à l'heure que nous ne pensons pas. Donc il faut être toujours prêt. Il faut donc comprendre, disent les pères, que nous devons mépriser et piétiner le monde présent et ce qui lui appartient. Pour mener une vie céleste et divine avec nos esprits et nos cœurs fixés sur le ciel. Donc on fixe le regard sur le ciel, sur le paradis où l'on va, même si l'on sait que dans la pratique, cela n'arrivera qu'à la fin de notre temps de pénitence ici-bas sur la terre, parce que nous sommes des viateurs, nous sommes des pèlerins sur la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Donc saint Paul ajoute le résultat, le fruit et la récompense. Pour nous, notre cité dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps si misérable en le rendant semblable à son corps glorieux. C'est au Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Donc en méprisant les choses terrestres, nous trouvons, nous cherchons les choses célestes, car nous cherchons, si nous cherchons le Christ avec une espérance certaine, nous deviendrons glorieux pour toujours. Donc il nous faut bien comprendre ces phrases qui sont absolument essentielles. Donc il faut chercher, suivre pour pouvoir trouver. On cherche Dieu pour le suivre afin de le trouver et de le posséder éternellement. Ici-bas, on ne peut pas posséder notre Seigneur éternellement, mais au ciel, oui. Donc c'est la phrase, la conclusion des pères. En méprisant les choses terrestres, nous cherchons les choses célestes. Car si nous cherchons le Christ avec une espérance certaine, nous deviendrons glorieux pour toujours. Ça, c'est la gloire du ciel. Donc, les premiers chrétiens gardèrent toujours dans leurs esprits ces trois conseils du Seigneur. Les reins saints, les lampes allumées et l'attente du maître qui doit arriver sans prévenir. Car en tant qu'étrangers sur cette terre, disent les pères, et citoyens du ciel, ils avaient volontairement abandonné leurs richesses, leurs honneurs, leurs plaisirs, leur vie présente même pour le Christ, car ils attendaient l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ après cette vie courte pour recevoir de lui une vie heureuse et éternelle, et en ceci consiste la vraie sagesse et la vraie prudence. Donc la sagesse et la prudence, c'est de s'occuper des choses importantes. Et quelle est la chose importante pour nous? La chose importante, c'est le salut de notre âme. Donc, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Rappelez-vous Saint Paul qui le dit expressément, si je n'ai pas la charité, ben je suis comme une cymbale qui retentit, je n'ai plus rien, je suis comme un son qui va retentir et qui va disparaître au bout de quelques secondes parce qu'il me manque l'essentiel. Donc la vraie sagesse, c'est rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vraie sagesse n'est possible qu'en ayant le marchepied de la vraie sagesse qui est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Crainte de Dieu, c'est le plus petit des dons du Saint-Esprit qui permet l'obtention du plus grand des dons du Saint-Esprit, qui est la vertu de sagesse. Cette vertu de sagesse qui va nous faire comprendre où sont les choses importantes. Nous pouvons voir cela dans les pontifes, nous disent les pères, les vierges, les martyrs romains pendant 300 ans, de Saint-Pierre à Saint-Sylvestre, qui se réjouissaient au milieu des persécutions incessantes, qui se réjouissaient d'être privés de leurs biens, emprisonnés, flagellés, tués, brûlés pour pouvoir posséder le Christ au ciel. N'oublions pas qu'il y a eu des persécutions sanglantes épouvantables depuis la première, au temps de Néron, en 67, jusqu'à la dernière, 312-313, avec Diodès et Dioclétien, qui va se terminer par ces persécutions, vont se terminer seulement avec la conversion de l'empereur Constantin, après sa victoire sur Maxence. Donc la conversion de l'empereur va entraîner la paix de Milan, c'est-à-dire l'arrêt des persécutions et le début de la paix pour l'Église. Bon, c'est la fin des persécutions en l'an 313 avec l'édit de Milan. Alors les pères de l'Église donnent comme exemple sainte Cécile, éminente parmi les autres, donc en bas de la page 18 sur le polycopier. Sainte Cécile qui, fleurissant par sa jeunesse, par sa beauté, par sa richesse, par sa noblesse, donna néanmoins joyeusement toutes ces choses au Christ et même sa propre vie au milieu de ses amis qui se lamentaient en la plaignant et alla dans la joie et l'exaltation au lieu de son martyre. Donc, imaginez un petit peu ces païens qui ne comprenaient que les choses matérielles. Donc ils voyaient la beauté, la richesse, la noblesse extraordinaire de Sainte Cécile qui venait d'une grande famille romaine. Ils ne comprenaient pas qu'elle puisse tout abandonner pour posséder un Dieu qu'ils ne voyaient même pas. Vous voyez? Et voilà ce que disait Sainte Cécile. Je ne perds pas ma vie, mais je vais la changer. Je donne l'argile pour recevoir l'or. Un vil et misérable taudis pour un magnifique palais construit de pierres précieuses et d'or. Je donne une chose périssable pour recevoir une chose éternelle, sans fin ni mort. Notre Seigneur Jésus-Christ ne donne pas une livre pour une livre, mais récompense la petite somme allouée au centuple et rajoute en plus la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc c'est sûr que tous ces martyrs, il y en a eu des millions, tous ces martyrs ont tout abandonné pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais le prix a été, la conséquence a été le salut éternel pour eux. Le Père ici cite une description donnée par Sainte Brigitte. En bas de la page 18. Au purgatoire, la troisième et plus haute place est celle où le seul châtiment est le désir de la venue de Dieu et de sa vision béatifique. Elle est réservée à ceux en cette vie qui n'ont pas eu un désir parfait de la présence de Dieu et de sa vision. On retrouve le même enseignement chez Denis le Chartreux et Saint Robert Bellarmine. Beaucoup de saints disent la même chose, que il y a un purgatoire spécial pour ceux qui sont restés en état de grâce pendant leur vie, mais qui n'ont pas assez désiré le ciel. Il faut devenir des hommes de désir. C'est une des gloires du prophète Daniel. Il était un homme de désir. Il est devenu un grand saint à cause de ça. Et bien, nous aussi, nous devons avoir ce désir du ciel. Même si nous vivons en état de grâce, mais que nous ne maintenons pas en nous ce désir d'être avec le bon Dieu pour toute l'éternité, eh bien, il va nous manquer quelque chose. Ce manque de désir et d'ardeur traduit une réelle sous-évaluation de la grande vision et gloire de Dieu, car c'est un signe que nous n'avons pas suffisamment considéré ses richesses et ses joies. Il ne s'agit pas de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, en regardant constamment en arrière. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ le dit, que celui qui regarde en arrière n'est pas digne de lui. Et donc, il faut regarder en avant, dans le futur, c'est le paradis, là où bon Dieu nous attend. Et donc malheur à celui qui a peut-être vécu en état de grâce, mais à qui manque ce désir. Voyez? Et on voit très bien dans le monde moderne, c'est ce désir qui a complètement disparu. On veut bien du paradis, mais à condition d'avoir d'abord joui de la ville avec toutes les gloires du monde et les gloires de la vie moderne, puis ensuite on pensera au paradis. Non, il faut vivre ici-bas en gardant notre regard tourné vers le ciel. Le bon Dieu nous attend là-haut. Ô chrétien, vis pour le Christ et non pour le monde, selon l'esprit et non la chair, non pas selon le temps, mais l'éternité. Et c'est ce que disent tous les pères. Qu'est-ce que le temps que nous allons passer sur la terre comme viateurs, comme pèlerins, par rapport à l'éternité? Une goutte d'eau dans la mer. Alors le bon Dieu explique, notre Seigneur explique justement que le maître, le serviteur infidèle viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, il le retranchera, lui donnera sa part avec les infidèles. Si je ne suis pas fidèle, eh bien je ne pourrai pas posséder notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en bas de la page 18 sur le polycopier. Quand le maître revient du mariage, le Christ dans son incarnation célèbre ses noces avec l'Église et tous les fidèles. Et quand il retourna au ciel, il consomma ainsi son mariage avec cette même Église, car par la gloire de la vision béatifique, il est intimement et indivisiblement uni à tous les bienheureux dans l'éternité. Rappelez-vous encore une fois l'histoire des vierges folles et des vierges sages. La vierge sage, c'est celle qui a l'huile de la charité. Rappelez-vous le symbole de la charité, notre Seigneur Jésus-Christ, Et cette flamme et cette lumière du monde, cette lumière du cierge pascal qui brûle, du cierge de la chandeleur qui brûle, du cierge de la présentation de notre Seigneur au temple, eh bien, ce cierge qui brûle représente la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut garder ce cierge allumé. Le bon Dieu nous donne en quelque sorte le jour de notre baptême une lampe à huile garnie d'huile avec une lampe qui brûle. La mèche brûle. Est-ce qu'elle plonge dans l'huile? L'huile, c'est symbole de l'espérance. La lampe à huile, c'est symbole de la foi. Et notre travail, c'est de garder cette huile, garder cette lampe allumée. Donc, pour que la lampe, la flamme de la lampe à huile puisse brûler constamment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord la protéger du vent. Si vous la promenez au vent du monde, au vent des tentations, au vent de toutes les choses du monde, eh bien, il est évident que si on l'expose à tous les mauvais esprits, les chefs tyranniques, les incroyants, les vices, dit Saint Paul, eh bien, elle va s'éteindre cette flamme. Donc, il faut d'abord la protéger cette flamme pour que ça ne s'éteigne pas au contact des tentations du monde. Et il faut aussi vérifier qu'on rajoute de l'huile. Sinon, nous serons comme les vierges folles. Les vierges folles, elles ne savaient pas assez d'huile. Donc ne soyons pas comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile en réserve, mais soyons comme les vierges sages qui sont celles qui ont pris soin de garder suffisamment d'huile en réserve pour pouvoir attendre toute la nuit l'époux qui va arriver et qui non seulement garde l'huile dans la lampe à huile, mais protège la flamme pour qu'elle brûle constamment. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ va arriver sans prévenir, il faut qu'au moment où le cri retentit, l'époux est là, il arrive, il faut que tout de suite les lampes soient prêtes. Alors, la lampe à huile de notre âme, c'est l'état de grâce en nous. Le jour de notre baptême, nous avons reçu de Dieu cette lampe, et donc il nous faut la garder brûlant. Il faut que cette lampe continue de brûler. Si je ne mets pas d'huile et que je ne protège pas la flamme, eh bien, elle va s'éteindre et je serai responsable des conséquences du fait que je n'ai plus la lumière du monde avec la lumière de la gloire du bon Dieu avec moi. Donc, quand notre Seigneur retourne au ciel, c'est l'époux qui retourne au ciel, il consume ainsi son mariage avec cette même Église, car par la gloire de la vision béatifique, il est intimement et indivisiblement uni à tous les bienheureux dans l'éternité. Alors passons à la page 19, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur cette citation sur les reins sains et les lampes allumées. Il y a beaucoup de choses dans les Pères de l'Église. Donc page 19. Alors continuons avec les textes des Pères sur le sujet. Je n'ai pas tout pris, il y a énormément de choses. J'ai pris les points les plus importants. Pour pouvoir aller directement à notre Seigneur quand il arrive, nous devons être prêts dans la pratique des vertus en cette vie, afin qu'étant ornés par elle à notre mort, nous puissions joyeusement le rencontrer, car ce ne sera plus le temps des œuvres et de la repentance. Mourant, nous serons faibles en notre esprit, opprimés par la maladie, à peine capables de penser à nos péchés, à notre salut. Ça, tous les prêtres pourront vous raconter des histoires d'horreur sur des gens qui attendent le dernier moment, si vous voulez, pour se convertir, ou qui, dans quelles conditions, parfois, nous sommes obligés de confesser des mourants. La famille nous appelle à l'hôpital parce que le grand-père est en train de mourir, et puis le grand-père, il ne s'est pas confessé depuis 50 ans, et puis il n'est plus en état de faire une confession parce qu'il est à moitié mort, il est à moitié dans le coma, ou il dort à moitié. Souvent, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui sont très âgés à l'hôpital. Je suis appelé par la famille pour donner l'extrême-onction, on n'arrive même pas à réveiller la personne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier pour lui, on peut donner l'absolution sous condition s'il y a une vague manifestation du regret des péchés, et puis on donne l'extrême-onction, mais qu'est-ce que valent ces sacrements donnés à la dernière minute à des âmes qui sont manifestement pas préparées à passer devant Dieu? Hein? Ce que disent les pères là est très vrai. Mourant, nous serons faibles et notre esprit opprimé par la maladie, à peine capable de penser à nos péchés, à notre salut. C'est l'image des vierges sages, des vierges folles, pardon, qui, au lieu de s'occuper d'avoir une provision d'huile, eh bien, on parlait toute la nuit sans se préoccuper d'avoir cette provision. Évidemment, lorsqu'elles se rendent compte que leurs lampes sont en train de s'éteindre, eh bien, il faut qu'elles aillent chercher de l'huile. Et pendant qu'elles sont allées chercher de l'huile, l'époux arrive et donc elles ne vont pas pouvoir rentrer dans la salle du festin. Il faut méditer sur cette phrase terrible. Elles rentrent, apportent, elles veulent revenir après avoir acheté de l'huile. Elles rallument leur lampe, elles se précipitent à la porte, elles se rendent compte que l'époux est rentré dans la maison. Elles tambourinent à la porte et qu'est-ce qu'elles entendent? Qu'est-ce qu'elles entendent, cette phrase terrible? Je ne vous connais pas. Hein, c'est une phrase à rapprocher du texte eschatologique qui dit éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel préparé pour Satan et ses anges. C'est la même signification qu'on trouve justement dans cette phrase, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que je ne vous reconnais plus comme mes enfants, parce que vous n'avez pas gardé en moi la vertu, en vous la vertu de charité. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné par le baptême le caractère d'enfant de Dieu. Ce caractère, on ne le perd pas. Même si on vit dans le péché mortel jusqu'au cou, un baptisé qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou va garder ce caractère d'enfant de Dieu. Attention, on ne peut pas accepter la doctrine. J'ai entendu parfois des catholiques qui disent ça, que quand on commet une faute grave, eh bien, on perd le caractère d'enfant de Dieu. C'est faux. Le caractère d'enfant de Dieu, comme tous les caractères, est quelque chose d'inamovible. Le caractère, c'est une marque ineffaçable. Caractère d'enfant de Dieu pour le baptême, caractère de soldat de Dieu pour le confirmer, et le caractère de ministre de Dieu pour le sacrement de l'ordre. Donc pour le baptême, c'est un caractère spécial qu'on appelle le caractère d'enfant de Dieu. Celui-ci ne peut pas être perdu. Il sera sur l'âme pour toute l'éternité, même au fond de l'enfer. Mais ce caractère ne va pas disparaître. Par contre, ce qui va disparaître, c'est la flamme de la charité. Malheureusement, si je commets des péchés graves, je perds cette charité, donc je dois la garder. Tout le travail sur la terre, notre travail de pèlerin sur la terre, c'est de conserver cette flamme de la charité. Donc, continuons avec les textes des pères, page 19 sur le polycopier. C'est donc de la folie, disent les pères, en cette vie, de nous laisser aller au plaisir, en disant que nous nous reportirons sur notre lit de mort, car cette repentance sera trop tardive, forcée et rarement sincère et sérieuse. Mais malheureusement, des choses qui arrivent, on essaie d'aller voir des gens à l'hôpital parce que la famille nous a demandé d'y aller. Bon, l'expérience m'a montré que très souvent on perd son temps quand ça ne vient pas de la personne en question. Monsieur l'abbé, allez voir, j'en supplie tellement de ma famille qui est en train de mourir à l'hôpital. Il faut aller le voir pour essayer de le confesser. Est-ce qu'il a demandé à voir le prêtre? Est-ce que vous avez préparé un peu son âme? Est-ce que vous lui avez parlé un petit peu du bon Dieu? Ah non, monsieur l'abbé, il ne veut pas l'entendre parler, mais peut-être que s'il voit la soutane, il va se convertir. Hein. Le bon Dieu fait pas de miracles comme ça, gratuitement, toujours. Il peut faire des miracles. Et la Sainte Vierge en obtient parfois. Mais c'est vraiment du domaine miraculeux. Hein. En général, comme on dit, l'arbre tombe du côté où il penche. Et c'est très, très difficile d'arriver à obtenir une confession de quelqu'un qui n'est pas du tout prêt et pas du tout décidé à se convertir avant la mort. Et souvent, si même si je confesse parce qu'il veut avoir la paix, alors on dit, bon, ben, je vais me confesser, comme ça on me fichera la paix. Et en fait, on n'obtient rien du tout parce que la personne n'a pas les dispositions pour quitter le péché. C'est pas lui qui quitte le péché, c'est le péché qu'il quitte. Et quand il dit, je regrette tous mes péchés, c'est pas ça du tout qu'il veut dire. Souvent, ces personnes, c'est pas le péché ils regrettent pas leur péché, ils regrettent de mourir. Je regrette mes péchés parce que je vais mourir. Et si je n'étais pas en train de mourir, je ne regretterais pas mes péchés. Je regrette mes péchés simplement parce que je dois mourir. Mais j'ai bien l'intention, si par hasard je ne meurs pas et je retrouve la santé, de retourner dans l'état de péché dans lequel je vivais auparavant. Il est évident que quelqu'un qui se confesse avec ce genre de disposition a une confession absolument invalide. Autre phrase des pères, troisième paragraphe de la page 19, pour ceux qui sont saints au ciel, CEINTS, hein, le Christ se ceindra lui-même et servira ses propres serviteurs, lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tous ceux qui ont travaillé à son service seront mis au repos pour être à l'aise et participer au banquet. Hein. Donc c'est le maître qui va littéralement se mettre au service de son serviteur qui a été fidèle. Le serviteur est celui qui sert le maître. Mais si le serviteur est fidèle, le maître va le récompenser en le faisant monter à la table d'honneur, monter plus haut, va-t-il dire à cette âme, et cette âme va s'asseoir à la droite de l'époux, et c'est l'époux qui va servir le serviteur. Nous devons donc veiller. nous disent les pères, pour nous préparer à la venue du Seigneur, car le temps de notre mort est incertain et nous ne pouvons être sûrs même d'un jour ou d'une heure. C'est pour ça que les gens modernes ont tellement peur de la mort. Ils ont peur de la mort parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir. Au contraire, les grands saints qui étaient toujours en état de grâce, eh ben, ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savaient que la mort, c'était simplement un moyen de se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre interprétation intéressante sur les veilles. Donc, le texte que je viens de vous lire, le texte de Saint-Luc au chapitre 12, parle des différentes veilles. Le maître qui va venir à la seconde veille ou à la troisième veille, qui trouve son serviteur en attente, heureux sont ses serviteurs. Bon. Eh bien, qu'est-ce que représentent ces veilles? Voilà l'interprétation des pères, page 19. La première veille est l'enfance, la seconde la jeunesse, la troisième l'âge adulte, la quatrième la vieillesse. Donc les nuits chez les Romains étaient divisées en veilles, c'est des veilles de 3 heures. Il y avait de 6h à 9h, puis de 9h à minuit, minuit à 3h, 3h à 6h. La journée commençait à 6h le matin. Et donc, ces différentes veilles représentent la vie du chrétien. D'abord, on passe par l'enfance, puis par la jeunesse, puis par l'âge adulte, et on finit par la vieillesse et la décrépitude. Sans oublier que le bon Dieu a promis que les ouvriers de la dernière heure seront payés comme les ouvriers de la première heure. Remarquons, disent les pères, que le Christ parle des premières, deuxième et troisième veilles, mais pas de la quatrième veille, car ils sont très peu nombreux ceux qui, n'ayant rien fait auparavant, ne se mettent au travail qu'au cours de cette dernière veille. Cependant, attention, ceux qui n'arrivent qu'à la dernière veille, c'est-à-dire la veille juste avant le lever du soleil, la veille donc de 3h à 6h du matin, bien, il vaut mieux arriver tard que jamais. Donc, encore une fois, les ouvriers, la dernière heure, ils sont arrivés à 5 heures de l'après-midi pour la journée de travail qui commençait de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Ils arrivent juste avant la fin du travail dans les champs, à la fin de la chaleur de la journée. Eh bien, s'ils sont vraiment de bonne volonté, ils vont être payés comme les ouvriers qui sont arrivés à la première heure. Et donc, ils vont avoir eux aussi un denier. Donc, voilà ce que disent les pères. Celui qui n'a pas voulu veiller pendant la première veille, qu'il le fasse pendant la seconde. Que celui qui n'a rien fait pendant la seconde se rattrape pendant la troisième. Et que celui qui a négligé la conversion dans son enfance s'en préoccupe pendant sa jeunesse ou sa vieillesse. Donc, si je ne me suis pas occupé du bon Dieu comme enfant, puis comme adolescent, puis comme jeune adulte, eh bien, qu'au moins je me rattrape dans la vieillesse. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'Espagne. Il y a d'espoir. Même si je me confesse, mais que je fais une bonne confession à 99 ans, juste avant la fumée des cierges, comme on dit, eh bien, je pourrais obtenir le ciel. Rappelez-vous, le bon larron qui s'est rattrapé aux branches à la fumée des cierges, tout à fait à la fin, à la dernière minute de sa vie. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Saint Cyril dit qu'aucune mention n'est faite de la première veille, car la jeunesse n'est pas punie par Dieu et obtient le pardon. Mais le second et troisième âge doivent obéissance à Dieu en suivant une vie honnête selon sa volonté. Effectivement, c'est le verset 38 du chapitre 12. On parle de la seconde veille, la troisième veille, mais on ne parle pas de la première veille. Saint Grégoire le Grand, autre interprétation donnée par Saint Grégoire. Derrière le dos du maître, le voleur rentre dans la maison, car pendant que l'esprit dort au lieu de se tenir en garde, la mort arrive sans prévenir et entre dans la maison de notre chair, mais celui qui veille résiste au voleur, étant sur ses gardes, faisant pénitence pour ses péchés, pour ne pas mourir impénitent. Le Seigneur n'a pas voulu que nous connaissions le temps de notre dernière heure pour nous obliger à être toujours prêts. Il y a quelques grands saints qui ont su par avance l'heure exacte de leur mort. Mais seulement les saints peuvent recevoir des grâces de ce genre. C'est beaucoup trop, ce serait beaucoup trop dangereux pour nous de connaître à l'avance l'heure de notre mort et le jour de notre mort. Parce que nous serions tentés à ce moment-là d'attendre le dernier moment pour nous convertir. Le bon Dieu a prévenu qu'il viendrait à l'heure que nous ne pensons pas. Donc le bon Dieu a prévenu qu'il viendrait à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Et donc, puisque nous ne savons pas l'heure, il faut être prêt tout le temps. La personne qui est prête, comment pouvons-nous être prêts à cette venue, être prêt à cette venue de notre Seigneur en état de grâce. Quelqu'un qui est en état de grâce est toujours prêt. Hein. Donc le bon Dieu ne révèle pas l'heure de la mort, sauf aux grands saints parfois, pour nous obliger à être toujours prêts. Si je savais, je vais mourir dans 10 ans à telle heure, bon ben je vous dis, bon ben ça va, j'ai encore 10 ans devant moi, donc je vais vivre un peu comme je veux pendant 9 ans et 11 mois, et puis je me ferai une bonne confession générale, je me préparerai le dernier mois, je me préparerai tranquillement à passer devant Dieu, mais jusqu'à là, je vais profiter de la vie. Et ben non, puisque nous ne savons pas à quelle heure notre Seigneur Jésus-Christ va venir, donc il nous faut être prêts tout le temps. Parce qu'encore une fois, notre Seigneur va venir sans prévenir. Encore une fois, donc ne cherchons pas à connaître l'heure de notre mort. C'est pas bon. Il y a parfois des catholiques qui sont comme ça, ils sont un peu obsédés par sa pensée à l'heure de la mort. Non, c'est ce qu'on dit tous les jours. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. L'heure de notre mort, le bon Dieu la connaît, la Sainte Vierge peut-être ne la connaît pas, mais à l'heure de notre mort, elle sera là. Donc ce qu'il faut, c'est être prêt. Pour être prêt à l'heure de notre mort, il faut être prêt pendant toute notre vie. Donc, je rappelle cette phrase des pères qui est belle. Le Seigneur n'a donc pas voulu que nous connaissions le temps de notre dernière heure pour nous obliger à être toujours prêts. Certaines personnes en autorité ont détruit non seulement des biens, mais aussi des âmes en exerçant sur des pécheurs une vertu indiscrète par des règles extravagantes de pénitence ou d'indulgence imprudente. Donc il y a deux erreurs, si vous voulez, à éviter, disent les pères. Première, c'est tomber une imprudence d'un côté en faisant trop de pénitence, et l'erreur de l'autre côté en faisant pas assez. N'oubliez pas que les vertus cardinales, les vertus morales, sont sur une ligne de crête. Donc on peut tomber d'un côté ou de l'autre, ou par excès ou par défaut, contrairement aux vertus théologales qui grimpent toujours tout droit vers le ciel. On ne peut jamais avoir trop de foi, trop d'espérance et trop de charité. Par contre, on peut avoir trop d'une vertu morale de façon imprudente. On peut avoir trop de prudence, on peut avoir trop de justice, trop de force, trop de tempérance. Quelqu'un qui a par exemple trop de force ou une justice poussée à l'extrême, ça peut devenir une injustice. Il y a des gens qui sont tellement prudents qu'ils font jamais rien, parce qu'ils ont tellement peur de mal faire qu'ils font jamais rien. Et donc, il faut justement garder un contrôle sur les vertus avec équilibre. Et la vertu qui donne l'équilibre dans l'usage des vertus cardinales et des vertus morales, et c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin dit que c'est le cocher des vertus. Donc celui qui est assis sur le haut de la diligence et qui tient entre ses mains les rênes qui contrôlent la force de l'attelage. Donc il y a 4 chevaux, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Et donc il faut maintenir un équilibre entre ces forces. Imaginez des étalons sauvages. La première chose qu'on fait pour contrôler un étalon, c'est mettre un mort entre ses dents dans sa mâchoire. Sinon, on ne peut rien faire. L'étalon va tout casser. Hein? Donc il faut avoir... Et il faut avoir une vertu discrète. La vertu peut être indiscrète. Ici, encore une fois, les pères parlent des vertus cardinales, des vertus morales, pas des vertus théologales. Les vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, peuvent progresser sans risque, ce qui n'est pas le cas des vertus cardinales. Il peut y avoir des gens qui font trop pénitence. Puis la vertu de piété, par exemple, parfois est mal entendue. Je connais des gens qui veulent trop prier et qui, à force de prier, on oublie leur devoir d'État. Imaginez une mère de famille qui veut passer sa vie à prier, qui ne s'occupe plus de ses enfants. Les enfants grimpent au rideau dans la maison, font de n'importe quoi. Le papa rentre du travail à 6h du soir, il n'y a rien qui a été fait, le repas n'est pas prêt, la maison est dans tous ses états parce que la maman prie. Elle racine son rosaire tranquillement dans la petite oratoire de la maison, et les enfants font n'importe quoi, mais ils ne sont pas surveillés. Et bien la maman manque à son devoir d'État. Il ne faut pas qu'elle dise « Ah mais j'ai passé du temps à la prière c'est plus important ». Non madame, parce que vous vous sanctifiez d'abord par la pratique de votre devoir d'État. Donc le premier moyen de sanctification, c'est la pratique de notre devoir d'État de chaque jour. De faire ce qu'on doit faire jour après jour, heure après heure, pour la plus grande gloire du bon Dieu, avec le sourire. Rappelez-vous la dernière condition. Bon, celui qui a passé, disent les pères, sa vie vertueusement et a gardé ses serviteurs en soumission, la colère et le désir, leur fournit leur portion de nourriture à temps. Donc, si vous voulez, là, il faut garder le contrôle de ses passions. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça souvent, Dieu va intervenir sur l'intelligence, l'intelligence va contrôler la volonté va contrôler les passions. Et lorsque le don d'intégrité disparaît à cause du péché originel, eh bien, à cause de la disparition de ce don d'intégrité, il va y avoir une révolution qui va s'opérer dans l'âme entre les différentes passions les unes contre les autres. Les passions ne vont plus être contrôlées par la volonté ne sera plus contrôlée par l'intelligence, et l'intelligence va se couper de Dieu. Vous voyez? Donc il faut un contrôle. D'où l'importance de toutes ces vertus, la vertu théologale bien sûr, mais aussi la vertu de prudence qui va nous aider à équilibrer notre vie spirituelle. Néanmoins, alors je reprends la phrase, celui qui a passé sa vie vertueusement et a gardé ses serviteurs en soumission, la colère et le désir, leur fournit leur portion de nourriture à temps. Néanmoins, il sera en colère contre ceux qui haïssent Dieu et gardera le désir afin de mettre en réserve les provisions nécessaires pour le corps, les ordonnant à Dieu. Donc, par la lumière de la contemplation, il sera placé en charge de tout. Donc, encore une fois, il faut un équilibre, même entre l'action et la contemplation. La contemplation est importante, mais la contemplation qui ne guide pas l'action, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut l'action et la contemplation. Hein. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin explique que la vie la plus parfaite, c'est un mélange de vie active et de vie contemplative. La vie contemplative pure, sans aucune vie d'action, est dangereuse. Qu'il faut l'action et la contemplation. J'ai déjà expliqué souvent que même les grands moines qui passaient leur vie dans une contemplation incroyable dans le désert, l'Égypte par exemple, au début de l'histoire de l'Église, eh bien, avaient une certaine activité manuelle à faire pour justement ne pas se déconnecter de la réalité. Donc, il faut la contemplation. Et en fait, la contemplation, la vie de prière, doit équilibrer la vie d'action. Donc, plus une âme a une vie d'action, plus elle doit équilibrer sa vie d'action par la contemplation. Hein? Donc, on a une vie spirituelle, une vie corporelle, il y a un lien entre les deux. C'est pour ça qu'il faut, il faut que le corps soit contrôlé par l'âme, mais il faut pas oublier que le corps est là. Une personne qui voudrait s'occuper que de son âme et ne plus s'occuper de son corps manquerait à son devoir d'État. D'accord? J'ai vu parfois des drames dans certaines familles parce que madame, justement, oubliait ces choses, la nécessité de cet équilibre. J'ai connu par exemple parfois des mères de famille ou des épouses qui faisaient une bonne confession générale, voulaient rattraper les fautes de leur jeunesse et donc commençaient à vouloir faire des pénitences et des pénitences et des pénitences, ne s'occupaient plus d'elles-mêmes. Elles ne cherchaient plus par exemple à plaire à leur mari. Et ça posait des énormes problèmes dans les ménages parce qu'elles manquaient à leur devoir d'État. Alors elles s'occupaient, disaient, maintenant je fais pénitence, j'ai été sensuel dans mon passé, je me suis habillé de façon provocante, donc maintenant je m'habille avec un sac de pommes de terre. Un sac à pommes de terre toute la journée, je cherche même plus je même plus mettre de je plus me maquiller, je veux plus me coiffer, je vis comme une bonne sœur et je m'occupe plus d'avoir une certaine beauté pour faire plaisir à mon mari. Eh bien, elle manque à son devoir d'État. Il faut un équilibre dans tout. Alors, continuons les explications des pères de l'Église. Donc, par ce mauvais serviteur, le texte de Saint-Luc nous parle du mauvais serviteur. C'est le verset 44. Si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, il le retranchera, et lui donnera sa part avec les infidèles. Donc, Saint Bède le Vénérable dit que par ce mauvais serviteur, il faut voir la condamnation de tous les mauvais chefs qui oublient la crainte de Dieu, non seulement en se vautrant dans les plaisirs, mais aussi en faisant du mal à ceux dont ils ont la charge. Le rôle d'un chef, c'est d'aider les gens qui sont sous sa charge à monter vers le bon Dieu. Pour ça que l'autorité est donnée à certaines personnes. Toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité politique, attention. Et les politiciens qui ont une certaine forme d'autorité doivent utiliser leur autorité pour monter vers le ciel et aider les gens dont ils ont la charge à monter vers le ciel, même s'ils sont des païens. Ils seront jugés justement sur l'usage qu'ils ont fait de cette autorité qui leur a été confiée. On n'a pas une autorité pour son propre bien, on a une autorité par rapport aux autres. Hein? Donc si j'utilise cette autorité pour me vautrer dans les plaisirs, c'est ce qui se passe en matière politique aujourd'hui, c'est ça le drame, c'est que les politiciens en France, c'est très net, de droite comme de gauche, d'ailleurs il n'y a pratiquement pas d'exception, tous ces politiciens autour de nous ne pensent qu'à une seule chose, c'est à leurs droits, à s'en mettre plein les poches, et ils oublient complètement leurs devoirs. Et donc ils sont incapables justement d'aider les gens dont ils ont la charge à monter au ciel. Et si M. Macron avait compris que son premier rôle, c'est quand même d'aider les Français à sauver leurs âmes, ça changerait beaucoup de choses. Mais ça, c'est une chose qu'il ne peut pas comprendre, hélas. Donc, ce que disent les pères, en bas de la page 19, on peut ainsi comprendre ces paroles figurativement, car on corrompt les cœurs des faibles par le mauvais exemple. Donc là, c'est l'explication du verset 44. Le mauvais serviteur qui dit mon maître tarde à venir et qui se met à frapper les serviteurs et les servantes, à boire, à manger, à boire et à s'enivrer. Donc voilà ce que disent les pères. Manger, boire et s'enivrer, c'est être absorbé par les vices et les pièges du monde qui envahissent l'esprit de l'homme. C'est les trois concupiscences. Il est évident que si je me laisse envahir par les passions qui viennent de la concupiscence des yeux, ben, tous les désirs de toutes les choses terrestres, toutes les choses matérielles, concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, l'orgueil, eh bien, si je me laisse absorber par ces vices et ces pièges du monde, eh bien, je serai incapable de rester en état de grâce. Le Seigneur de ce serviteur viendra le jour où il n'est pas attendu, le jour de son jugement ou de sa mort, et le coupera en deux en le séparant de la communion des fidèles et en le renvoyant à ceux qui n'ont jamais atteint la foi. C'est le symbole de l'excommunication. Excommunié de Dieu, c'est terrible ça. C'est la parole eschatologique que j'ai déjà citée il y a quelques minutes. Éloignez-vous de moi, maudit, allez, et allez en enfer, au feu éternel. C'est la peine du damné, la peine de ne jamais voir Dieu, parce que justement, je ne me suis pas occupé de remplir mon devoir d'État. Voyez, donc on a terminé avec ce commentaire donc des versets 35 à 46 du chapitre 12 de Saint-Luc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire en suivant les pères de l'Église. Donc j'ai encore quelques minutes là pour commencer à voir un peu donc en bas de la page 19, les versets 47 et 48 du chapitre 12. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de ce châtiment recevra peu de coups. À quiconque beaucoup aura été donné, beaucoup sera demandé. Et de celui à qui on a confié beaucoup, on exigera davantage. Cette phrase est capitale, mes bien chers frères. Plus on a reçu, plus il faut donner. Le bon Dieu nous jugera en fonction de ce qu'on a reçu, parce qu'il est parfaitement juste. Donc, toute âme étant différente, Dieu ne jugera pas chaque âme de la même façon. Certes, les commandements sont les mêmes pour tout le monde. Les 10 commandements de Dieu sont valables pour tout le monde, y compris pour les bandits qui nous gouvernent. Mais on sera jugé en fonction de ce qu'on a reçu. Il est évident que certains des politiciens, la plupart des politiciens qui le gouvernent, n'ont pas reçu grand-chose au plan religieux, même rien reçu du tout dans bien des cas. Ils seront jugés par Dieu, mais ils se seront jugés beaucoup moins sévèrement, certainement, que nous, catholiques, qui avons beaucoup reçu. Je donne souvent comme exemple d'un prêtre moderniste qui n'a rien reçu, il n'a pas fait de séminaire, il a fait un séminaire complètement moderne. La seule doctrine qu'il connaît, c'est la doctrine de Vatican II. Il n'a jamais étudié la foi catholique, il ne connaît pas le catéchisme traditionnel. Il dit la nouvelle messe parce que c'est la seule messe qu'il a toujours connue. Il n'a jamais connu la messe traditionnelle. Il ne sait pas ce que c'est que la tradition de l'Église. Et il a perdu la foi, il fait perdre la foi à tous ceux dont il s'occupe. Bon, bien sûr, il a une responsabilité, mais il a une responsabilité beaucoup moins grave qu'un prêtre catholique de tradition qui a connu la foi catholique par l'éducation qu'il a reçue dans son enfance, parce qu'il a fait un bon séminaire, parce qu'il a été ordonné validement, parce qu'il a reçu une formation traditionnelle, parce qu'il a étudié Saint Thomas d'Aquin, la somme théologique et le magistère traditionnel de l'Église. Celui-là sera jugé bien plus sévèrement parce qu'il a beaucoup plus reçu. On sera jugé en fonction de ce qu'on a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. D'où cette phrase, à quiconque beaucoup aura été donné, beaucoup sera demandé, et de celui à qui on a confié davantage, on a confié beaucoup, on exigera davantage. Donc plus on a reçu, plus Dieu en redemande, et plus il faut donner. Passons à la page 20, au haut de la page, pour avancer un petit peu. Il reste 10 minutes pour ce cours, donc je vais avancer un peu. Il y a 4 degrés d'ignorance. Donc on va être jugé en fonction de ce qu'on connaît. On peut être jugé en fonction de ce qu'on ne connaît pas. Sauf quand on ne connaît pas des choses qu'on était supposé connaître. C'est pour ça qu'ici, les pères parlent des 4 degrés d'ignorance. Premier degré d'ignorance est invincible. Et on n'est pas responsable. On ne connaît pas, mais c'est en faute de notre part. On ignorait complètement, complètement la responsabilité qui devait être la nôtre. Par exemple, c'est le cas d'un exemple que nous donne le séminaire, c'est une battue, un chasseur qui tire sur un buisson parce qu'il a vu un lapin rentrer dans le buisson, qui tire pour tuer le lapin, et puis malheureusement dans le buisson, il y avait un autre chasseur qui était là, et puis il blesse le chasseur, ou il tue le chasseur par erreur, il ne savait absolument pas, il ne pouvait pas deviner que ce chasseur était là dans le buisson, et c'est ce qu'on appelle une ignorance invincible. Et là, il n'est pas responsable. La seconde, ignorance est vincible. Donc, on est responsable, qui est coupable, qui sera puni. Vincible, ça veut dire qu'il avait le devoir de vérifier. Premier cas, il vérifie, il ne voit rien, il voit un lièvre qui rentre dans le buisson, il regarde, non, je ne vois rien du tout, il tire et puis il tue un compagnon chasseur qui était dans le buisson, il n'a pas vu. Bon, et il n'est pas responsable. Par contre, s'il tire sans précaution, sans commencer par vérifier qu'il n'y a personne de caché dans le buisson, à ce moment-là, c'est une ignorance qu'on appelle vincible, c'est-à-dire qu'il aurait dû vaincre cette ignorance avant de le tirer. Et donc, il est responsable de la mort de ce chasseur. La troisième est crasse, qui est la plus coupable. C'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, je ferme les yeux pour ne pas voir, pour pas voir. Il y a peut-être un chasseur dans son buisson, mais je ne veux pas le savoir, je n'ouvre pas les yeux, et je tire quand même à l'aveuglette, tant pis si je tue quelqu'un. C'est une ignorance crasse. C'est une ignorance de l'hypocrite, si vous voulez, qui se maintient volontairement dans l'ignorance. Et la quatrième, le quatrième degré d'ignorance, c'est l'ignorance qui est totalement volontaire, encore plus blâmable, blâmable et punissable. Donc on sera jugé en fonction de notre degré de connaissance. Ici, j'ai trouvé un texte de Saint Bernard qui met fortement le pape Eugène devant ses responsabilités. Le pape Eugène était un de ses anciens moines. Donc Saint Bernard était c'est le fondateur des... fondateur d'un ordre religieux, il avait remis de l'ordre, si vous voulez, dans une certaine décadence qui s'était instituée, qui s'était installée parmi les religieux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ordre cistercien. Il va remettre entre autres la pauvreté en valeur. Et un de ses moines va devenir pape. C'est le pape Eugène, je crois que c'était lui. Il va lui adresser ces paroles extraordinaires. En lui expliquant les exigences de Dieu pour les pontifes, les évêques et les prélats. Donc Saint Bernard a écrit un livre pour justement ceux qui sont en charge. Voilà ce texte, considérez, c'est page 20. Considérez-vous comme l'exemplaire de la justice, le miroir de la sainteté, l'exemplaire de la piété, le pilier de la vérité, le défendeur de la foi, le docteur des gentils, le guide des chrétiens, l'ami de l'époux, le gardien du clergé, le pasteur des peuples, le gouverneur de ceux qui manquent de sagesse, le refuge des opprimés, l'avocat des pauvres, l'espoir des miséreux, le tuteur des jeunes, le juge des veuves, les yeux de l'aveugle, la langue du muet, le bâton des vieillards, le vengeur des crimes, l'effroi des méchants, la gloire des bons, la verge des puissants, le marteau des tyrans, le père des rois, le juge des lois, le dispensateur des charges, le sel de la terre, la lumière du monde, le prêtre du Très-Haut, le vicaire du Christ, qui ne serait pas tremblant de crainte en entendant tout ceci qui est requis de votre siège apostolique, qui parle au pape. Extraordinaire cette phrase. Et cette phrase s'adresse, en fait, cette longue phrase, ce conseil de Saint Bernard à son moine qui est devenu pape, c'est aussi un conseil qu'on pourrait donner à tous ceux qui sont en charge d'âme. Un père de famille, une mère de famille, un époux, une épouse en charge d'âme, et qui ont des enfants. Et donc, et ces conseils, ça s'adresse aussi aux parents et aussi pour nous prêtres. Moi, je suis papa, je suis un simple prêtre. Eh bien, ces conseils que Saint Bernard donnait au pape Eugène s'adressent aussi à tous les prêtres. Nous aussi, il faut que nous soyons le miroir de sainteté, l'exemplaire de la justice, l'exemplaire de la piété, le pilier de la vérité, le défendeur de la foi, le docteur des gentils, etc. Et donc, c'est le devoir d'État de tous ceux qui ont charge d'âme. Donc, malheur à celui qui a charge d'âme et qui refuse de remplir son devoir. Ici, j'ai mis un texte de Saint Jean Chrysostome, un autre père de l'Église. Je me demande si un seul gardien des âmes peut se sauver. Saint Robert Bellarmine disait de même de tous les pontifes. Le Concile de Trente déclare que l'office de l'évêque serait déjà un poids formidable pour les épaules des anges. Là, j'ai mis un texte très connu de Saint Pie V. Quand il fut nommé pape, il manqua de s'évanouir. Et voilà ce qu'il a dit. Quand j'étais simple religieux, de l'ordre de Saint-Benoît, j'avais bon espoir de me sauver. Et quand je devins évêque, j'en fus rempli d'effroi. Mais maintenant que je suis choisi comme pape, c'est en désespéré, car comment vais-je pouvoir rendre compte à Dieu des milliers d'âmes qui sont dans cette ville, alors que je peux à peine répondre de mon âme? Donc plus on a de responsabilités, plus on a besoin des grâces du bon Dieu, plus le bon Dieu nous donne des grâces, mais malheur à celui qui a des responsabilités, qui ne veut pas les remplir. Donc celui qui a vocation d'être une rose dans le jardin, il doit être une belle rose au milieu du jardin. Celui qui a vocation pour être une petite violette cachée sous la mousse, encore une fois, il doit être une bonne petite violette cachée sous la mousse. Donc si un pape a des responsabilités, quelqu'un est pape, il a des responsabilités énormes pour le salut des âmes. Celui qui est évêque a des responsabilités énormes pour les gens qui habitent dans son évêché. Les gens de son évêché, celui qui est curé de paroisse, c'est une responsabilité pour ses paroissiens. Celui qui est père de famille a responsabilité pour sa famille en tant que chef de famille. Celui qui est mère de famille, celle qui est mère de famille a responsabilité comme mère de famille également sur ses enfants. Autre texte des pères. Le Christ nous laisse à comprendre que si le serviteur infidèle est puni par la perte de sa fonction, c'est que la grandeur de sa dignité devient la cause de sa condamnation. Donc, encore une fois, c'est des commentaires de ce verset 48. À quiconque beaucoup aura été donné, beaucoup sera demandé. De celui à qui on a confié beaucoup, on exigera davantage. Toutes les choses ne sont pas jugées de la même façon, disent les pères, car une plus grande connaissance entraîne un plus grand châtiment. Plus on a de devoirs à remplir, plus notre responsabilité augmente. Donc il ne faut pas séparer les devoirs des droits. C'est ça le problème. C'était le problème, je pense, de grande partie de la noblesse au moment juste avant la Révolution 1789, c'est que les nobles se sont préoccupés de leurs droits et ont complètement oublié leurs devoirs. Les droits dépendent des devoirs. Donc, toutes les choses ne seront pas jugées de la même façon, car une plus grande connaissance entraîne un plus grand châtiment. Voilà une phrase importante des pères. Le prêtre qui commet le même péché que le peuple souffrira une punition plus grande. Donc, le péché d'un père de famille est plus grave que le péché de quelqu'un qui n'est pas père de famille. Le péché d'un prêtre est plus grave que le péché d'un fidèle, même si c'est la même action. Pourquoi? Parce que le prêtre a plus de responsabilités. Donc, le prêtre qui commet le même péché que le peuple souffrira une punition plus grande. Plus on donne, plus il sera requis de celui qui a reçu. Les maîtres qui ont reçu la grâce de la parole et de la connaissance devront rendre un compte exact de ce qu'ils ont reçu. Malheur à ceux qui sont restés dans l'oisiveté au lieu de travailler à augmenter le talent de la parole. Donc, si j'ai reçu une grande somme d'argent, je dois utiliser cette somme d'argent au service de ceux dont j'ai la charge. Malheur à celui qui garde cet argent pour lui. On va terminer par une citation de Saint Bède le Vénérable. Beaucoup fut donné à certains individus qui ont reçu la connaissance de la volonté divine avec les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils connaissent. Beaucoup est également donné à ceux à qui est confié, en plus de l'œuvre de leur salut personnel, celui de soigner et de nourrir le troupeau du Seigneur. Sur ceux-là qui ont reçu des grâces plus abondantes et les ont mal utilisées, un châtiment plus lourd tombera. D'où la responsabilité énorme des prêtres, mes bien chers frères. Il faut prier pour vos prêtres. Et cela nous aide aussi à comprendre la gravité de ceux qui ont trahi. On peut penser à tout ce qui se passe à Rome actuellement avec M. Bergoglio qui, au lieu de remplir sa fonction, utilise son pouvoir pour détruire les âmes et détruire le dépôt de la foi. Bon, je suis en charge en tant qu'un pape, et c'est quelqu'un qui est en charge du dépôt de la foi. Je suis en charge du dépôt de la foi pour les fidèles qui m'ont été confiés par la Sainte Providence. Voilà, donc nous allons terminer ici. Donc commençons la prochaine fois, si Dieu veut, avec le verset 49. Nous allons presque terminer ce chapitre 12 de Saint-Luc, qui est un chapitre important. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.